Chapitre 2. Sa reine descendit à quai pour se découvrir veuve. Certes choquant, l'événement aurait pu être plus atroce. Après tout, elle n'avait jamais rencontré son époux. En fait, quand elle avait embarqué, Raoden et elle n'étaient que fiancés. Elle s'attendait à ce que le royaume d'Arelon organise les noces à son arrivée. Dans son pays natal, au moins, on tablait sur la présence des deux partenaires lors de la cérémonie nuptiale.
« Je n'ai jamais aimé cette clause du contrat de mariage, madame !»
déclara son compagnon, une boule de lumière de la taille d'un melon qui planait à ses côtés. Sa reine tapa du pied en regardant les porteurs charger ses bagages sur une voiture à cheval. Le document, un monstre de 50 pages, stipulait entre autres que leur fiançailles serait considérée comme une union légale dans le cas où l'une ou l'autre des deux parties mourait avant la cérémonie proprement dite. Il s'agit d'une clause très répandue, Haché. Ainsi, le traité d'alliance que permet un mariage politique reste valide. Je ne l'avais cependant jamais vu appliquer.
Jusqu'à présent, répliqua la boule de lumière d'une voix profonde à la diction irréprochable.
Jusqu'à présent, oui. Comment pouvais-je me douter que le prince Raoden ne survivrait pas aux 5 jours que prend la traversée de la mer de Fjorden? Sa reine s'interrompit, les sourcils froncés. Récite-moi cette clause, Haché. Que dit-elle au juste?
Si la paire qu'un des membres du couple susmentionné est rappelé à Domu Miséricordieux avant la date fixée pour le mariage, alors les fiançailles seront tenues pour équivalent aux 10 mariages dans tous ses aspects légaux et sociaux.
Voilà qui ne laisse guère de marge de manœuvre, n'est-ce pas?
Je crains bien que non, madame.
Sa reine, distraite, plissa le front, croisa les bras, et se tapota la joue de l'index en observant les porteurs qui s'affairaient. Grand, émacié, un homme les dirigeait avec un regard blasé et un air résigné. Kétol, serviteur de la cour royale, représentait tout le comité de réception que le roi Yadon avait jugé bon d'envoyer accueillir sa bru. C'était lui qui avait eu le triste devoir de lui apprendre le décès de Raoden d'une soudaine maladie pendant la traversée. Il avait effectué sa déclaration sur le ton impassible et indifférent avec lequel il chaperonnait à présent les porteurs. « Donc, pour la loi, je suis désormais princesse d'Arelon. »
« Tout à fait, madame. »
« Et veuve d'un homme que je n'ai jamais rencontré. »
« Exact. »
Sa reine secoua la tête. « Père Varir a sans décrocher la mâchoire. Je passerai en vain ma vie à faire oublier cela. » Une faible pulsation trahit l'irritation d'Haché.
« Madame, jamais le roi ne prendra un événement aussi grave à la légère. La mort du prince ne peut qu'accabler de chagrin la famille royale d'Arelon. »
« Un chagrin si grand qu'elle n'a pu consentir l'effort de venir à la rencontre de sa fille. »
« Le roi Yadon se serait peut-être déplacé en personne si on l'avait prévenu plus à l'avance. »
Elle se rembrunit, mais il avait raison. Son arrivée précoce une semaine avant le gros de la noce devait constituer une surprise prénuptiale. Elle tenait à passer quelques jours dans l'intimité avec son futur époux. La discrétion avait joué en sa défaveur. Quel intervalle observe-t-on entre le décès d'un individu et ses funérailles en Arelon?
Je l'ignore au juste, madame, avoua le Séon. J'ai quitté ce pays voici bien longtemps, et j'y avais si peu vécu que je ne me rappelle guère de spécificité. Mes études, toutefois, me pousse à postuler que les coutumes arelloises sont souvent similaires aux vôtres. »
Sa reine opina du chef et fit signe au serviteur d'approcher.
« Oui, madame ?»
demanda Kétol d'une voix languide. « Tient-on une veillée mortuaire pour le prince ?»«
Oui, madame, devant la chapelle Korati. L'enterrement aura lieu dans la soirée. »«
Je veux voir le cercueil. » L'autre hésita.
« Sa Majesté le Roi demandait que l'on vous amène en sa présence au plus vite.
Alors je ne m'attarderai pas sous la tente funéraire, » dit sa reine en se dirigeant vers son carrosse. Elle observait d'un œil critique la tente bondée tandis que Kétol et quelques-uns des porteurs lui ouvraient un passage. Il fallait reconnaître que tout était irréprochable.
les fleurs, les offrandes, les prêtres Korati en prière. Seule l'ampleur de l'assistance avait de quoi surprendre. « Il y a vraiment beaucoup de monde ?» dit-elle à Haché.
« Le prince était très aimé, madame, » répondit le Séon qui flottait près d'elle. « Selon les rapports que nous avons reçus, il s'agissait du personnage officiel le plus populaire du pays. »
Sa reine hocha la tête et s'engagea dans le couloir que Kétol avait ménagé. Le cercueil de Raoden trônait au centre de la tente, gardé par un cercle de soldats qui retenait la foule. Un chagrin authentique se lisait sur les visages. C'est donc vrai, les gens l'adoraient. Les soldats s'écartèrent pour lui permettre d'approcher du cercueil en bois, sculpté d'Aon, des symboles d'espoir et de paix pour la plupart, et entouré d'un anneau de riche mets, une offrande au nom du défunt, selon la coutume Korati. Puis-je le voir ? Demanda-t-elle en se tournant vers l'un des prêtres, un petit homme à l'air doux.
« Je regrette, mon enfant, » dit-il, « mais la maladie du prince l'a laissé défigurer. Le roi a demandé qu'on accorde à son fils de conserver sa dignité jusque dans la mort. »
La jeune femme acquiesça, puis elle fit de nouveau face au cercueil. Ce qu'elle s'attendait à éprouver devant la dépouille de l'homme qu'elle aurait dû épouser, sa reine l'ignorait. Il lui parut étrange que ce soit une colère sourde. Refoulant l'émotion importune, elle reprit son observation. L'occasion semblait presque trop formelle. Même si la peine des visiteurs ne faisait aucun doute, la tente, les offrandes et les décorations paraissaient stériles. Un homme de l'âge et de la vigueur supposée de Raoden, mort de la toux frissonnante? C'est possible, et pourtant peu probable.
« Madame, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura le Séon.
Elle lui fit signe de la suivre et repartit vers son carrosse.
« Je l'ignore, » répondit-elle du même ton. « Il y a quelque chose qui cloche. »
« Vous êtes suspicieuse par nature, madame, » releva Haché.
« Pourquoi Yadon n'a-t-il pas pris le deuil pour son fils ? À en croire qu'Étol, il reste entouré de sa cour comme si de rien n'était. »
Elle secoua la tête. « J'ai parlé avec Raoden juste avant notre départ et il se portait à merveille. » Il y a anguille sous roche, et j'entends découvrir de quoi il retourne.
« Oh non, madame, votre père m'a prié sans ambiguïté de m'efforcer de vous tenir à l'œil. »
Sa reine sourit. « Voilà bien une tâche impossible. Viens, il nous faut aller voir mon deuxième père. » Elle s'accouda à la fenêtre de la voiture qui roulait vers le palais. Tandis qu'en silence, elle regardait la ville passer, une pensée tournait dans sa tête, à l'exclusion de tout autre. « Qu'est-ce que je fais ici ?» Même si elle avait affecté la confiance en parlant à Haché, elle excellait à cacher ses soucis. Certes, le décès du prince l'intriguait, mais sa reine se connaissait par cœur. Pour une bonne part, sa curiosité visait à la détourner du sentiment d'infériorité et de l'embarras que lui causait son image, celle d'une femme brusque, dégingandée, qui n'était plus de la prime jeunesse. À 25 ans, on doit être marié depuis longtemps. Raoden incarnait jusque-là sa dernière chance.
« Comment avez-vous osé mourir, prince Tarellon ? » songea-t-elle indignée.
Mais l'ironie de la situation ne lui échappait pas. Quoi de plus naturel qu'un homme qu'elle se voyait déjà apprécier meure avant même leur première rencontre ? Elle se retrouvait livrée à elle-même dans un autre pays et liée par contrat à un roi qui ne lui inspirait aucune confiance. Son sentiment de solitude n'avait d'égal que son découragement.
La solitude, cela t'est familier, sa reine, se remémora-t-elle. Tu y survivras. Contente-toi de trouver de quoi t'occuper. Tu as une cour royale tout entière à découvrir. Amuse-toi bien.
Avec un petit soupir, elle reporta son attention sur la ville. Malgré sa longue expérience au sein du corps diplomatique de son père, elle n'avait jamais mis le pied en Arellon. Depuis la chute des Lantris, la plupart des autres royaumes avaient placé le pays en quarantaine. Nul ne savait pourquoi la cité mystique avait été maudite, et chacun craignait que la maladie des Élantriens ne se propage. Ce qui la surprit, cependant, ce fut la richesse qu'exhibait la localité. Les artères de Caë étaient larges, bien entretenues, les passants bien habillés, et elle ne vit pas un mendiant.
Des prêtres Korati en robe bleue allaient sans hâte, escortant un étrange personnage en robe blanche. Elle suivit des yeux la procession, en se demandant de qui il pouvait s'agir, jusqu'à ce que le petit groupe tourne un coin de rue. Vu du carrosse, Kae ne montrait aucun signe de la crise économique censée affecter Arelon. La voiture longea des dizaines d'hôtels particuliers, chacun dans un style différent. Certains possédaient plusieurs ailes et des toits pointus, à la mode d'Ula. D'autres évoquaient des châteaux dont les murs d'enceinte auraient pu venir tout droit du royaume militariste de Fjorden. Toutes ces demeures avaient cependant un point commun, le luxe. Si le peuple de ce pays criait famine, Kae, où vivait son aristocratie, ne semblait pas l'avoir remarqué. Bien sûr, une ombre glaçante pesait sur la ville. L'énorme muraille d'Elantris, au loin. Sa reine frissonna en contemplant ces pierres austères. Depuis qu'elle avait quitté l'enfance, elle entendait des histoires sur la magie que la cité produisait jadis et les monstruosités qui la hantaient désormais. Aussi voyantes que soient les demeures et animées les artères de Kae, l'Arelon ne se portait certes pas au mieux, comme en témoignait ce formidable cénotaphe. « Pourquoi habiter ici, au fond ? » s'interrogea-t-elle. « Pardon, madame ? » demanda Haché. « Pourquoi le roi Yadon a-t-il construit son palais à Kae ? Pourquoi choisir une localité si proche d'Elantris ? » ?»«
Sans doute pour des raisons pratiques, madame. Il n'y a que 2 ou 3 ports viables sur la côte nord de ce pays, et le meilleur se situe ici. »
Sa reine hocha la tête. La baie creusée par l'arrêt d'elle faisait un superbe havre face à la fureur de l'océan. Pourtant, à moins que le motif ne soit politique, répliqua-t-elle. Yadon a pris le trône pendant une période troublée. Il estime peut-être que la proximité de l'ancienne capitale lui confère un surcroît d'autorité.
Peut-être, madame.
Peu importe, d'ailleurs, se dit-elle. Selon toute apparence, côtoyer Elantris, ou les Elantriens, n'accroissait en rien les risques de Shaod. Elle se détourna de la fenêtre et observa Haché qui planait près d'elle au-dessus de la banquette. Elle n'avait pas encore aperçu de Séon dans les rues de Kae. Pourtant, ces créatures, qu'on disait issues de la magie elantrienne, étaient réputées moins rares en Arelon que dans son pays natal. En plissant les paupières, elle arrivait tout juste à discerner l'aon brillant au centre du globe lumineux qui constituait Haché.
« Au moins, le traité est sauf, » dit-elle enfin.
« À condition que vous demeuriez ici, madame, » répliqua-t-il de sa voix de basse. « En tout cas, c'est ce que dit le contrat de mariage. Tant que vous serez en Arelon et que vous resterez fidèle à votre époux, le roi Yadon devra honorer les termes de son alliance avec le Théode. »
« Fidèle à un mort, » soupira sa reine.
Cela signifie demeurer ici, mari ou non.
Si vous le dites, madame.
Il nous faut ce traité. Le Fjorden étend son influence à une vitesse incroyable. Il y a 5 ans, j'aurais dit que nous n'avions aucun souci à nous faire, que les prêtres Fjordel ne constitueraient jamais un pouvoir notable en Arelon. Mais de nos jours...
Elle secoua la tête. L'effondrement de la République d'Uladen avait changé bien des choses.
Nous n'aurions pas dû nous tenir autant à l'écart de l'Arelon, Haché. Je ne serais sans doute pas dans cette situation inextricable si nous avions forgé depuis 10 ans des liens robustes avec le gouvernement arélois.
Votre père craignait que le désordre politique, et aussi le Réode, ne contamine le Théode. On ignorait si la malédiction qui affligeait les Elantriens épargnerait les gens normaux.
Le carrosse ralentit. Sa reine soupira de nouveau et laissa le silence s'installer. Son père savait que le Fjorden représentait un danger et qu'il fallait renouer les vieux liens. C'était dans ce but qu'elle se trouvait ici. Devant eux, les portes du palais s'ouvraient. Le Théode comptait sur elle pour préparer l'Arelon à la guerre qui s'annonçait, une guerre inévitable depuis la chute d'Elantris. Le deuxième père de sa reine, le roi Yadon d'Arelon, était un homme émacié, au visage rusé. Il conférait avec plusieurs de ses administrateurs quand la jeune femme pénétra dans la salle du trône et il ne lui accorda un hochement de tête qu'au bout d'une 15aine de minutes. Attendre ne la gênait guère,
Cela lui donnait la possibilité d'observer l'homme auquel elle devait désormais obéir. Mais elle se sentit quelque peu bousculée dans sa dignité. Son rang de princesse du Théode, à lui seul, aurait dû lui valoir un accueil, sinon grandiose, du moins ponctuel. Tout en patientant, elle s'avisa d'un détail important. Yadon n'avait pas l'air d'un homme qui pleurait la mort de son fils et héritier. Son regard ne montrait aucune tristesse, ni son visage l'air hagard qui accompagne d'ordinaire le décès d'un être aimé. En fait, l'atmosphère de la cour tout entière paraissait étrangère au deuil. « Yadon est-il sans cœur ?» se demanda sa reine, intriguée. « Ou simplement capable de maîtriser son émotion ?» Les années passées à la cour de son père lui avaient appris à juger les nobles. Même si elle n'entendait rien de ce qu'il disait, on lui avait demandé de se tenir au fond de la salle et d'attendre la permission d'approcher du trône. Ses actes et ses gestes ne pouvaient que le caractériser. Il s'exprimait avec fermeté, donnait ses instructions directement et, parfois, marquait une pause pour tapoter sa table à cartes d'un index effilé. Elle lui assigna une forte personnalité. Il paraissait avoir une idée précise de la façon dont il entendait mener ses affaires. Sans doute pourrait-elle œuvrer de concert avec lui. Elle n'allait pas tarder à devoir réviser son opinion. Le roi Yadon lui fit signe de s'avancer. Masquant avec soin l'irritation que le délai lui avait causée, elle s'approcha avec la posture adéquate de respect aristocratique. Il l'interrompit en pleine révérence.
« Personne ne m'avait prévenu que vous seriez une géante !»
Elle releva la tête. « Mais sire ?»«
Ma foi, j'imagine que le seul qui s'en serait soucié n'est plus là pour le constater. Et Shen ?»
À cette exclamation, une dame qui passait presque inaperçue dans un coin accourut.
« Emmène-la dans ses appartements et occupe-la. Trouve-lui quelque chose à broder ou un autre truc de bonne femme. »
Sur ce, le souverain porta son attention vers la délégation de marchands qui attendait de se voir accorder audience ensuite. L'absence totale de courtoisie manifestée par Yadon figea sa reine. Seules des années d'étiquette l'empêchèrent de rester bouche bée. Vivement, mais sans assurance, la femme que le roi venait d'apostropher, la reine Eshen, son épouse, la prit par le bras. Petite, menue, elle avait des cheveux auburn qui commençaient juste à grisonner.
« Venez, mon enfant » lança-t-elle d'une voix haut perchée. « Il ne faut pas faire perdre son temps au roi !»
Sa reine se laissa entraîner vers l'une des portes latérales. « Domu miséricordieux !» se dit-elle. « Dans quel pétrin me suis-je fourrée ?»«
Et vous allez l'adorer une fois les roses fleuries. Je demande au jardinier de les planter de telle sorte que l'on puisse les sentir sans devoir se pencher par la fenêtre. Mais j'aimerais qu'elles soient moins grandes. »
Sa reine, perplexe, fronça les sourcils.
Les roses ? Non, ma chère, les fenêtres ! Incroyable ce que le soleil peut briller à travers le matin. Je leur ai dit, au jardinier s'entend, de m'en trouver des oranges, parce que j'adore l'orange, mais pour l'heure, ils n'en ont déniché que des jaunes pâles. Je leur ai dit, si je voulais du jaune, j'aurais demandé des tulipes. Il fallait les voir se confondre en excuses. Mais je gage que nous en aurons d'orange d'ici à la fin de l'année prochaine. Vous ne trouvez pas cela merveilleux, ma chère? Bien sûr, les fenêtres seront toujours trop grandes. Je pourrais peut-être en faire murer une ou deux. »
Sa reine hocha la tête, fascinée, non par la conversation, mais par la reine. Elle qui croyait jusqu'alors que les tuteurs de l'Académie royale du Théode excellaient à dire le moins de choses avec le plus de mots, devait reconnaître qu'Eshen les enterrait. Voltant d'un sujet à l'autre tel un papillon en quête d'un perchoir, mais n'en trouvant jamais un seul digne de s'y attarder, la reine ne laissait aucune chance à la princesse de poursuivre une quelconque amorce de discussion. Cette dernière prit une profonde inspiration pour se calmer et s'astreignit à rester patiente. Elle ne pouvait reprocher à Eshen d'être ce qu'elle était. Pour Domu, on devait apprécier chaque personnalité comme un cadeau reçu. Dans ses tours et détours, la reine était charmante à sa façon. Mais vu le couple royal, sa reine craignait d'avoir toutes les peines du monde à trouver des alliés politiques en Arellon. Quelque chose la dérangeait dans l'attitude d'Eshen. Nul ne pouvait parler autant sans marquer de pause. L'autre paraissait mal à l'aise en présence de sa bru. Soudain, celle-ci s'avisa de ce qui la gênait. La reine parlait de tout sauf du sujet crucial, le prince disparut. Prise d'un soupçon, sa reine plissa les yeux. Cette femme, qui était certes très fuyante, ne se comportait-elle pas de façon beaucoup trop enjouée pour une mère qui venait de perdre son fils ?
Voici votre chambre, ma chère. Nous avons défait vos bagages et ajouté quelques effets. Vous y avez des habits de toutes les couleurs, y compris jaune, quoique j'ai du mal à imaginer que vous vouliez en porter. Une couleur hideuse. Non que vos cheveux soient hideux. Le blond n'a rien à voir avec le jaune. Pas plus qu'un légume n'a à voir avec un cheval. Nous n'avons pas encore de cheval pour vous, mais ne vous gênez pas pour en choisir un dans les écuries royales. Nous avons beaucoup d'animaux superbes, vous voyez, et le Duladel est si beau à cette époque de l'année.
Bien sûr. Du regard, sa reine inspecta la pièce, petite mais à son goût. À disposer de trop d'espace, comme de trop peu, on pouvait étouffer.
Et vous aurez besoin de ceci, ma chère.
Et Chen désigna d'une main menue une pile séparée du reste, comme si on l'avait apportée plus récemment. Tous les vêtements de cette pile avaient une caractéristique en commun.
Noir ?
Demanda sa reine.
Bien sûr, vous êtes...
La reine cherchait ses mots. La réalité s'imposa à la princesse. Je suis en deuil, oui. Irritée, elle tapa du pied. Le noir ne faisait pas partie de ses couleurs préférées. Et Chen opina du chef.
Vous pourrez porter l'une de ces robes ce soir aux funérailles. Ce devrait être un beau service. J'ai réglé tous les détails moi-même.
Elle se remit à parler de ses fleurs préférées, puis se lança dans un discours sur la détestation que lui inspirait la cuisine Fiordel. Gentille mais ferme, sa reine l'emmena vers le seuil en acquiesçant d'un air plaisant. Sitôt qu'elles atteignirent le couloir, la jeune femme plaida la fatigue du voyage et coupa court au déluge verbal de la reine en fermant la porte.
« Je vais m'enlacer très vite, » dit-elle à mi-voix.
« La souveraine semble fort douée pour la conversation, madame, » convint une voix profonde.
« Qu'as-tu découvert ?» Sa reine alla examiner les habits noirs, tandis qu'Achée entrait en planant par la fenêtre ouverte.
« J'ai vu moins de Séon que je ne m'y attendais. Je crois me rappeler que mes congénères abondaient ici jadis. »
« Leur rareté m'a frappée aussi. » La jeune femme brandit une robe face au miroir en pied, puis l'écarta en secouant la tête. « Les choses auront changé ?»«
En effet. Selon vos instructions, madame, j'ai demandé aux autres Séon ce qu'ils savaient de la mort prématurée du prince, mais ils ont refusé d'en discuter, hélas. Ils voient dans le décès de Raoden si peu de temps avant son mariage un très mauvais présage. »
« Pour lui surtout, » murmura sa reine qui se déshabillait afin d'essayer une autre robe.
« Il se passe quelque chose d'étrange, Achée. Je crois qu'on l'a tué. »«
Tué, madame ?»
La voix grave se nuançait d'une note de désapprobation et une pulsation anima le globe lumineux.
« Qui commettrait un tel acte ?»«
Je n'en sais rien, mais il y a anguille sous roche. La cour n'a pas l'air endeuillée. Prends la reine. » Elle m'a paru posée, alors qu'on s'attendrait quand même à la voir un peu affligée par le fait que son fils est mort hier.
« Cela s'explique sans peine, madame. Et Chen n'était pas la mère du prince. Raoden est né de la première femme de Yadon qui est morte il y a une bonne douzaine d'années. »
« Quand le roi s'est-il remarié ?»«
Peu après le Réod, quelques mois après son accession au trône. »
Sa reine fronça les sourcils. Cela ne dissipe en rien mes soupçons. La jeune femme boutonna malhabilement le dos de sa robe, puis se regarda dans le miroir d'un œil critique.
Bon, au moins elle me va, même si elle me pâlit. J'avais peur qu'elle ne m'arrive qu'aux genoux. Ces arelloises sont toutes petites.
Si vous le dites, madame.
Les arelloises étaient de taille normale, il le savait aussi bien que la jeune femme, qui, même au Théode, dominait ses compagnes d'une bonne tête. Son père l'avait surnommé durant son enfance « bâton de l'équi », du nom de ce long poteau fin qui marquait l'embute de son sport favori. Même une fois ses formes adolescentes acquises, sa reine était restée efflanquée. Le Séon interrompit ses réflexions.
« Madame ?»«
Oui, Achée ?»«
Votre père veut à tout prix vous parler. Je crois que vous lui devez quelques nouvelles. »
Elle hocha la tête en réprimant un soupir, et le Séon, animé de pulsations, brilla plus fort. Puis, la boule de lumière qui formait son essence se résolut en un buste luisant, le buste du roi Éventéo de Théode. Les lèvres scintillantes remuèrent.
Haine ?
Robuste, il avait un large visage ovale et un menton épais.
« Oui, père, je suis là !»
Il devait se tenir devant un autre Séon, sans doute Dio, qui imitait quant à lui le buste de sa reine.
« Tu as le trac pour ton mariage ?» demanda Éventéo d'un ton soucieux.
« À propos du mariage, tu prévoyais de venir la semaine prochaine ? Tu peux annuler le voyage, il n'y aura pas grand-chose à voir.
Quoi ?»
Haché avait raison. Loin de rire en apprenant la mort de Raoden, Éventéo prit une voix soucieuse et son buste luisant une mine grave. Sa préoccupation ne fit que croître quand sa fille lui eut expliqué que ce décès l'engageait au même titre que le mariage.
« Oh, Haine, je suis navrée. Je sais que tu attendais beaucoup de cette union. »
« Absurde, père. »
Il la connaissait trop bien.
« Ne l'ayant jamais rencontrée, quelles attentes aurais-je pu avoir ?»«
Tu ne l'avais jamais rencontrée, mais vous aviez parlé par Séon et échangé des tombereaux de lettres. Je sais que tu as l'âme romantique. Tu n'aurais jamais accepté ce contrat si tu ne t'étais sentie capable d'aimer Raoden. »
Il disait vrai. Et soudain, sa reine ressentit tout le poids de sa propre solitude. Elle avait traversé la mer de Fjorden dans un état de nervosité incrédule, excitée et inquiète qu'elle était à la perspective de rencontrer enfin celui qui devait devenir son mari. Plus excitée qu'inquiète, toutefois. Elle avait quitté le Théode à maintes reprises, mais toujours en compagnie de compatriotes. Cette fois-ci, elle était partie seule, devançant le reste de la noce pour surprendre le prince. Elle avait lu et relu ses lettres au point d'échafauder à partir de ses feuillets une personnalité complexe et sensible dont il lui tardait de faire la connaissance. Elle n'en aurait jamais l'occasion. Plus que seule, elle se sentait rejetée, une fois de plus. Rejetée, indésirable. Elle avait attendu des années, tolérée par un modèle de patience en la personne d'un père qui ignorait que les hommes de leur pays évitaient sa fille parce qu'ils redoutaient son caractère tranché, voire arrogant. Et alors qu'elle en avait enfin trouvé un qui l'acceptait telle qu'elle était, Domu le lui dérobait à la dernière seconde. Sa reine se permit alors d'éprouver certaines des émotions qu'elle réprimait depuis sa descente à quai. Elle se félicita de ce que le Séon ne transmette que ses traits. Si son père avait vu la larme qui roulait sur sa joue, elle aurait été mortifiée. « C'est ridicule, père. Il s'agissait d'un mariage politique, comme nous le savions tous. À présent, nos deux pays ont en commun plus que la langue. Nos lignées royales sont unies. »«
Oh, ma chérie, ma petite sarène, » souffla-t-il. « J'espérais tellement que tout se passerait bien. Si tu savais combien ta mère et moi avons prié pour que tu trouves enfin le bonheur là-bas. Idos Domu. « Nous n'aurions jamais dû consentir à cet arrangement. »«
Je t'y aurais contraint, père. Nous avons trop besoin du traité avec la Rélone. Notre armada ne tiendra plus longtemps le Fjorden à l'écart de nos côtes. Toute la marine svordoise est passée sous le commandement du Virne. »«
La petite Sarène a bien grandi. »«
Au point de pouvoir épouser un cadavre. »
Elle eut un rire forcé. « Cela vaut sans doute mieux. » Je doute fort que le prince Raoden se soit avéré tel que je l'imaginais. Tu devrais voir son père.
Des rumeurs circulent. Je voudrais les croire infondées.
Oh, que non !
Sa reine laissa le déplaisir que lui inspirait le monarque Arélois consumer son chagrin.
Yadon doit être l'homme le plus désagréable que j'ai jamais rencontré. Tout juste s'il m'a salué avant de m'ordonner de m'occuper à, je cite, broder ou un autre truc de bonne femme. Si Raoden lui ressemblait le moins du monde, je m'en tire à bon compte.
Son père marqua une pause avant de répondre.
Sarène, tu veux rentrer à la maison? Je peux annuler le contrat si je le souhaite, quoi que dise la loi.
C'était tentant, plus qu'elle ne l'admettrait jamais. Elle hésita et secoua la tête sans s'en rendre compte.
Non, père, je dois rester. L'idée vient de moi et la mort de Raoden ne change rien au besoin que nous avons de cette alliance. Par ailleurs, rentrer mettrait la tradition en péril. Nous savons tous deux que Yadon est aussi mon père désormais.
Il serait inconvenant que tu me reprennes au sein de ta maisonnée.
Je resterai toujours ton père, N. Domu maudisse les coutumes, le théode te sera toujours ouvert.
Merci, dit-elle tout bas. Cela fait plaisir à entendre. Mais je crois tout de même préférable de rester ici. Du moins pour l'instant. Et puis, ce pourrait être intéressant. J'ai toute une cour inconnue dont me jouer.
N, je connais ce ton de voix, dit Eventéo. Qu'est-ce que tu mijotes?
Rien. Je compte juste fourrer mon nez dans quelques petites choses avant de renoncer pour de bon à cette union. Son père sourit.
Domu les protège. Ils ne savent pas ce qu'on leur a fourré dans les pattes. Tâche de les épargner, bâton de l'équi. Je ne veux pas recevoir d'ici à un mois un mot du premier ministre Naolen m'apprenant que le roi Yadon s'est réfugié dans un monastère Korati et que les Arellois t'ont proclamé monarque.
« Bon, » dit-elle avec un fin sourire, « j'attendrai 2 mois. » Il eut son grand éclat de rire si caractéristique, une réaction qui fit davantage de bien à sa reine que ses condoléances et ses conseils.
« Reste là, » dit-il une fois calmé. « Je vais chercher ta mère. Elle tiendra à te parler. »
Puis, il gloussa.
« Elle va tomber dans les pommes quand je lui aurai dit que tu n'as pas perdu ton temps pour tuer ce pauvre Raoden. »«
Père !» protesta sa reine. Mais il avait déjà disparu.